Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Une émission sur les dents aujourd'hui, mais sans morsure. Quoique, notre époque ne fait pas de cadeaux et les dents en savent quelque chose. Montre-moi tes dents, je te dirai d'où tu viens. La dentition, c'est pas seulement une question de santé. Un sourire d'une blancheur éclatante ou des dents jaunies, mal alignées en disent beaucoup sur notre position sociale. Les dentistes continuent d'affirmer que pour avoir de belles dents, il suffit d'en prendre soin. C'est à la fois vrai et infiniment plus complexe. Plus que n'importe quelle autre partie du corps, nos dents révèlent la place que l'on occupe dans la société. Le marché mondial de la cosmétique dentaire est actuellement évalué à 23 milliards de dollars. Un journaliste a mené une enquête passionnante dans cette guerre des dents parfaites. Bonjour Olivier Siran.
Bonjour.
Vous publiez un livre très très documenté sur les dents, ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale aux éditions La Découverte. Et vous avez lâché d'ailleurs sur Twitter que vous n'étiez pas plus à l'aise derrière un micro que sur le fauteuil d'un dentiste. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer.
C'est toujours ce qu'on dit.
J'ai rien dans les mains, vous avez vu. Le coût des soins dentaires, on va en parler. L'invention américaine de la blancheur, de l'alignement, les violences aussi sur les dents, de l'esclavage jusqu'aux femmes battues d'aujourd'hui. Nous verrons aussi qu'il existe d'autres formes esthétiques de sourire, avec des dents recouvertes d'or, incrustées de pierres pour les rappeurs ou tout simplement manquantes comme dans certains townships d'Afrique du Sud. Et quant à vous, les voisins, on attend vos histoires personnelles de dentition, vos complexes ou vos satisfactions. Allez, je voulais quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Ali est à Kaduna, au nord du Nigeria. Il nous dit « Je suis fière de mes dents, bien séparées les unes des autres, bien organisées et très blanches. » Mana, c'est un Mbujimayi en République démocratique du Congo. Un beau sourire permet de ne pas vieillir vite, d'être joyeux, d'être abordable. Moi, j'ai pas de complexe, car comme je brosse mes dents, je peux rire partout. » Amidou est à Niamey, au Niger. Chez les Peuls du Niger, on pense qu'épouser une femme qui a de grandes incisives et qui l'empêche de fermer la bouche rend très riche. Les femmes qui ont une telle denture sont les plus recherchées. Modibo est à Bamako, au Mali. Moi, je suis très complexée par mes dents qui sont cassées, noircies par les caries. Elles m'empêchent de faire de belles photos. Et puis, écoutez aussi le message de ce voisin en France.
Oui, moi, en fait, je suis un peu complexé par rapport à mes dents.
En fait, ce qui me dérange, j'ai des grosses dents. Quand je souris, j'écarte trop les dents, j'ai l'impression. Mais vu de l'extérieur, quand les gens ils me voient, ils me disent que j'ai un beau sourire.
Voilà, ça c'est Nino. J'ai pas bien compris ce que veut dire « j'écarte trop les dents », parce qu'a priori, les dents, on peut pas les écarter soi-même. Je sais pas, peut-être on écarte trop la bouche, on montre trop ses dents. Enfin, en tout cas, les autres trouvent qu'il a un beau sourire, c'est quand même l'essentiel, Nino. Les voisins, les voisines, on attend vos histoires personnelles de dentition, vos complexes, vos satisfactions. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41.
Rituel blancheur instantané White Now. Un sourire plus éclatant en un brossage.
Bien sûr, j'aime vos muscles superbes et vos dents éclatantes.
Je suis avec ma copine Bernadette, je lui fais un numéro de charme, mais tu ne dois pas t'inquiéter. Elle a fait un lapsus formidable, rire général, même chez les sans dents. F. Hollande, le 31 mai 2005 à 12h39.
Il dit clairement, oui, j'ai dit les sans dents. Pourquoi ? Parce que je vais beaucoup au contact des gens et que à quoi on reconnaît quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas d'argent en province ? Eh bien, c'est quelqu'un qui a des problèmes dentaires. Donc, j'ai employé cette expression, les sans dents.
Pour être heureux ensemble, dents blanches, haleine fraîche, super dentifrice Colgate. Le super dentifrice Colgate supprime la mauvaise haleine, protège et blanchit les dents. Dents blanches, haleine fraîche, super dentifrice Colgate.
Olivier Siran, l'ancien président socialiste François Hollande, accusé par son ex-conjointe Valérie Trierweiler de qualifier les personnes pauvres de sans-dents, ça quand même a été à l'époque, hein, il faut s'en souvenir, une des révélations les plus dévastatrices du livre de Valérie Trierweiler, merci pour ce moment. La dent est donc un objet 100% politique et pas seulement intime.
Oui, absolument. Je crois que la déclaration qui a été attribuée à François Hollande exprime bien le mépris que dont nous faisons l'expérience, enfin dont font l'expérience les galériens de la dent, les gens qui ont des problèmes de dents ou à qui il manque des dents, ce mépris le vivent de façon quotidienne. Ils doivent organiser leur vie de manière à faire face à ce mépris. Et donc, la sortie de Hollande traduit bien ça. Alors lui, voilà, il explique qu'il a utilisé cette expression parce que justement, il était tellement conscient
Il a été mortifié à l'époque.
Mortifié de découvrir que les pauvres ont parfois des problèmes de dents. On a envie quand même de lui répondre qu'indépendamment de sa déclaration, il n'a guère amélioré le sort des pauvres et donc de leur dentition. Et puis que par ailleurs, d'ailleurs, il y avait au moment où il tenait ses propos, une lutte collective qui était en cours, qui était celle des patients des centres de soins d'Antexia, qui se sont retrouvés ruinés et mutilés en raison des pratiques absolument scandaleuses de cette chaîne de centres de soins dentaires low cost. Et ils ont dû se battre pendant 2 ans, mais vraiment avec, dans les pires conditions possibles de détresse et de souffrance, pour arracher la reconnaissance des souffrances qui leur avaient été infligées et surtout obtenir la prise en charge de leurs soins par l'État, ce que l'État leur refusait. Et on était bien à l'époque sous la présidence de François Hollande. Donc quand il explique qu'il est extrêmement soucieux de la dentition des pauvres, ça a tendance à faire un peu sourire.
Alors ceci dit, il n'y a pas que les pauvres qui ont des problèmes de dents. François Mitterrand avait fait limer ses canines, vous vous souvenez, pour devenir président. Ça lui donnait du coup un sourire plus doux, plus avenant. Vous avez recueilli de nombreux témoignages dans votre livre, Olivier Siran, sur les dents, sur la honte d'avoir une mauvaise dentition esthétiquement, visiblement. Qu'est-ce que ça veut dire sourire par terre ?
Le sourire par terre, c'est le titre d'un poème écrit par un des personnages que j'ai rencontré pour ce livre, Nordi, qui explique que quand elle était élève dans son école en Auvergne, elle faisait partie des élèves qui souriaient par terre, c'est-à-dire qui cachaient leur sourire, qui cachaient leurs dents. Et ce qui l'avait frappé dès son plus jeune âge, c'est l'identification extrêmement juste que l'on pouvait faire à partir des dents de chacun. C'est-à-dire qu'il y avait des parties des élèves un peu enfants de notables, de l'avocat, de l'apothicaire, du médecin, qui avaient des dents parfaites et qui souriaient à pleines dents. Et puis, il y avait celles et ceux qui souriaient par terre parce qu'elles avaient honte, elles avaient honte de l'état de leurs dents. Et ça, dès l'école.
Et pourtant, il fut un temps où ce n'étaient pas les plus riches qui étaient les plus à l'abri d'un défaut de dentition. Si on revient à la cour à Versailles, Olivier Siran, il y a très longtemps, avant la Révolution française.
Oui, il fut un temps, en effet, où le marqueur social fonctionnait à l'envers, c'est-à-dire que c'était les personnes les plus choyées dans la pyramide sociale, c'est-à-dire les aristocrates et les bourgeois, la bourgeoisie émergente, dont les dents étaient souvent dans un état catastrophique. Dû au fait que c'était en fait la seule partie de la population qui avait accès à une denrée à l'époque très précieuse, qui était le sucre. Vous savez qu'avec avec les débuts de la colonisation et l'essor de la traite esclavagiste, la France s'est retrouvée récipiendaire de livraisons de sucre importantes. Mais ce sucre, évidemment, coûtait très cher et c'était seulement les aristocrates et les bourgeois qui avaient accès. Raison pour laquelle ils se retrouvent avec des bouches
Carriées,
fétides. Pour ça que je dis que le siècle des Lumières, c'était surtout le siècle des caries. Et ce qui a conduit par ailleurs aussi au développement des soins dentaires, puisque du coup, il devenait intéressant pour les chirurgiens, les chirurgiens dentistes dont la profession venait tout juste d'être née. Oui.
Des dentistes, quand même, autrefois considérés comme des bouchers par
les
médecins.
Oui, comme des bouchers, comme pire méprisés. Que des bouchers, absolument, absolument. Il faut s'en souvenir.
Oui,
il
faut dire que les méthodes étaient quand même assez...
étaient un peu rudimentaires.
Un peu rudimentaires, oui. La France, vous l'expliquez dans votre livre, Olivier Siran, c'est le pays où a émergé vraiment la dentisterie moderne, même si on a été largement détrôné après par l'Amérique plus tard.
Oui, tout à fait. Mais justement, c'est dû à cette conjonction entre différents entre différents moments, enfin entre différents phénomènes qui ont eu lieu durant la même période. Il y a donc le, en fait, la, le fait que des gens dotés d'un, d'un fort pouvoir financier économique se retrouvent avec des dents pourries et il fallait bien s'en occuper. D'autre part, Louis XIV, justement, parce qu'il avait lui-même de très gros problèmes de dents et c'était absolument épouvantable. On lui a massacré la dent, les dents qui lui restaient, on lui a arraché un bout de sa mâchoire, enfin c'était absolument dantesque. On peut y voir aussi une forme de juste retour des choses pour le code noir qu'il avait signé pour les horreurs de l'esclavage, non, auquel il avait donné sa bénédiction. Donc d'une certaine façon c'est un juste retour des choses, mais ça par reconnaissance envers les dentistes qui l'ont martyrisé, envers les chirurgiens qui l'ont martyrisé, il a reconnu la profession de chirurgien-dentiste, qui à partir de ce moment-là a pu s'installer dans les beaux quartiers à Versailles et à Paris et prendre en charge toute cette nouvelle catégorie de patients en perruqué et à la laine fétide qui venaient. Voilà. Il est intéressant de noter que dès leur apparition, en fait, les dentistes s'installaient dans les beaux quartiers. Ils s'installaient là où ils avaient accès à une clientèle solvable.
On parlait de ce fameux sourire par terre pour des personnes qui n'ont pas accès à des soins dentaires de qualité, qui cachent leur sourire en baissant la tête. Vous citez des témoignages dans votre livre où même quand on a pu prendre l'ascenseur social, devenir aisé, on reste avec ces problèmes de dents. Il y a un témoignage d'un chercheur qui est né d'un milieu modeste et qui est tout le temps poursuivi par ces problèmes dentaires, même au moment où il a les moyens de se payer un très bon dentiste.
Tout à fait. C'est pour ça que quand on dit que les dents sont un marqueur social, c'est vrai, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que le marqueur accroît encore la profondeur de ces inégalités et l'effet de ces inégalités perdure même quand au niveau personnel, ces inégalités se sont partiellement comblées et vous portez en fait l'héritage de vos origines sociales difficiles, vous les portez sur le corps même si votre situation personnelle entre-temps s'est améliorée. Les dents, elles, continuent de vous rappeler en permanence à vos racines.
L'écrivain Édouard Louis aussi, dans son roman « En finir avec Eddie Bellegueule », il est né dans une famille pauvre, négligente sur les soins dentaires. Il raconte ses nuits de rage de dents qui le poursuivent encore, malgré son ascension sociale. Les enfants aussi, vous dites qu'il y a un vrai problème avec les enfants. En France, si on reprend les chiffres, 41% des enfants d'ouvriers en classe de 3e ont au moins une dent cariée, contre 24% des enfants de cadre. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est trois fois plus d'enfants adolescents noirs, là je cite de mémoire, trois fois plus d'enfants adolescents noirs qui ont au moins une carie non soignée que les adolescents blancs. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne va pas comparer le système de santé américain et français. En France, Emmanuel Macron a quand même amené le reste à charge zéro sur les couronnes, sur les plombages, pour les caries. Ce n'est pas suffisant pour que les personnes qui ont peu de ressources financières se fassent soigner correctement par un dentiste?
En fait, il y a au moins deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que à plus de 80%, les dentistes en France exercent en libéral. Donc ce sont des petits patrons, par définition, qui ont besoin de faire tourner leur boutique. Et d'autre part, c'est le second gros problème, c'est que le système de soins dentaires tel qu'il existe en France organise en fait une dentisterie en deux vitesses en mettant en compétition les soins tarifés remboursés par la Sécu et les soins non tarifés, non plafonnés et non remboursés. Or, les soins remboursés, qui sont les soins de tous les jours, ceux dont on a besoin avant que les choses se gâtent, ces soins-là ne rapportent quasiment rien au dentiste. Enfin, ça ne lui permet pas de dégager du bénéfice. Et donc, il va être incité à privilégier les soins qu'il lui rapporte. C'est tout à fait logique, puisque c'est un entrepreneur. Et donc là, se pose à un moment donné, évidemment, la question de la confiance qu'on peut accorder à quelqu'un dont l'intérêt, consciemment ou inconsciemment, est de privilégier des soins qui ne sont pas adaptés.
Notamment soigner des enfants.
Ni à notre santé, ni forcément à notre porte-monnaie.
C'est ça, soigner des enfants, si on regarde les barèmes de remboursement de la Sécurité sociale, ça ne rapporte rien pour un dentiste,
oui, voilà,
sauf s'il fait des dépassements.
Exactement. Alors, il se pratique dans la profession, en tout cas chez certains dentistes, un nombre quand même assez élevé selon plusieurs études, ce qu'on appelle des refus de soins. Ceux qui en sont les premières victimes, c'est par exemple les allocataires de la CMU, de la CMU ou de l'AME, c'est-à-dire des patients qui sont pauvres, pour le dire vite, et beaucoup d'entre eux, tout simplement, n'ont pas accès à un cabinet dentaire parce qu'on leur dit dès le départ, au moment de la prise de rendez-vous, on va trouver un prétexte pour ne pas leur accorder un rendez-vous.
C'est totalement interdit, hein. Ça a été d'ailleurs...
C'est illégal, mais c'est une pratique très courante et socialement admise au sein de la profession. Le défenseur des droits, il y a en 2018...
Jacques Toubon, à l'époque.
Avait admonesté les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour que les dentistes cessent de faire figurer noir sur blanc la mention « on ne prend pas les CMU », par exemple. Mais comme vous dites, il y a d'autres catégories de patients qui sont également victimes de refus de soins. Et pour les enfants, alors ça passe pas par du refus caractéristique ou caractérisé, mais plutôt par des astuces de type, par exemple, ne pas ouvrir son cabinet le mercredi après-midi, sachant que les parents, bien souvent, pour leurs enfants, vont prendre rendez-vous le mercredi après-midi où il n'y a pas école. Il y a comme ça une série d'astuces qui permettent aux dentistes donc d'éviter les patients qu'ils considèrent comme indésirables. Ça vaut aussi pour les personnes âgées, par exemple, ou les personnes handicapées. Il y a une grosse difficulté à accéder, même ne serait-ce qu'aux soins de base. Alors, sans parler des soins plus compliqués, des soins coûteux. Alors là, c'est encore évidemment infiniment plus difficile.
Alors, vous n'êtes pas le meilleur ami des dentistes. Hein, je crois qu'on l'aura compris.
Ça dépend de certains dentistes, si.
Oui, mais en tout cas pour la majorité. Vous citez une femme dentiste qui, par ailleurs, fait aussi de la dentisterie humanitaire à sa retraite. Hein, donc, oui. Mais voici ce qu'elle dit. En France, tout le monde a une alimentation correcte. Il n'y a pas de carence. Chez les enfants, le sucre est l'unique responsable des caries. C'est ce que je dis parfois aux gens qui arrivent avec une carie profonde. Parce que la trouille, parce que machin, à qui il fallait dévitaliser une dent et mettre une couronne, je leur disais « Mais madame, c'est de votre faute. Et en plus, vous coûtez cher à la société. » Je leur disais « Vive la France, hein, parce que vos soins sont remboursés à 100%, même votre couronne. Il y a une partie qui va être prise en charge. » C'est, en gros, chacun est responsable de ses dents.
Absolument, mais ça c'est un discours qu'on entend très souvent de la part de dentistes, y compris même de dentistes qui ont un engagement humanitaire, comme cette dame.
Mais c'est ce qu'elle dit, c'est à la fois vrai et pas vrai.
Non,
c'est quand
bien
même
sûr,
vrai, il y a un fond
mais
vrai.
Mais c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est le reflet aussi de ce qu'on nous dit très souvent dans les campagnes de prévention. Grosso modo, si vous vous occupez bien de vos dents, si vous vous brossez correctement les dents, si vous évitez les sucreries, les sodas, le tabac, l'alcool, les drogues, ceci, cela, que vous avez une alimentation parfaitement équilibrée et de préférence protégée pour éviter les coups que vous pouvez vous prendre dans les dents, eh ben vous n'aurez aucun souci. C'est vrai, sauf que nous ne sommes pas tous égaux devant nos dents et que nous avons des conditions de vie qui peuvent nous empêcher d'avoir accès à, par exemple, une alimentation saine et équilibrée. Et par conséquent, nous sommes en fait... ce message de responsabilisation, il a surtout pour conséquence de nous remplir de honte lorsque nous avons des problèmes dedans.
Et
à individualiser ce problème, à considérer que c'est de notre faute, et donc ce qui va encore conduire à notre isolement et à notre souffrance. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que d'abord, l'industrie agroalimentaire met du sucre absolument partout, pas seulement dans les sodas, les glaces ou les bonbons. Elle en met même
notamment
dans les sachets d'herbes de Provence, elle en met
dans les
plats cuisinés salés.
Les aliments les moins chers, hein, parce que et manger
absolument.
Des fruits et légumes frais, évidemment,
exactement,
il n'y a pas de sucre, beaucoup moins.
Manger 5 fruits et légumes par jour, manger de façon équilibrée, en évitant les féculents, en évitant les sucres, c'est un luxe que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre. Donc déjà, nous sommes face à une inégalité structurelle qui réduit de beaucoup notre responsabilité individuelle. Et ensuite, nous sommes exposés à toutes sortes de violences sociales, en plus ou moins en fonction de la position que nous occupons dans la société, qui ont un effet direct sur notre santé dentaire.
Alors les dentistes accusent les personnes pauvres de ne pas prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leurs dents, mais les dentistes eux-mêmes, est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis de leurs patients?
Mais Ce discours sur la responsabilité, si vous voulez, c'est vraiment un discours, je ne veux pas politiser à outrance à ce micro, mais c'est vraiment un discours profondément de droite. C'est-à-dire que la responsabilité individuelle, c'est surtout celle des pauvres pour qu'ils soient moins pauvres et que tout aille mieux pour eux. En revanche, la responsabilité individuelle des dentistes est bien moins engagée, car une fois qu'ils ont fini leur travail, vous savez, c'est l'idéologie du contrat. Il y a un contrat passé entre le dentiste fournisseur de soins et fournisseur de soins tarifés et le patient ou la patiente. Une fois que le travail est fini, que la prestation a été fournie, le contrat est terminé. La personne rentre à la maison et si, parce que les soins ont été mal administrés ou à la va-vite, la couronne ou la prothèse se casse au bout d'un mois, de six mois ou d'un an ou deux, eh ben, il n'y a pas de garantie. Le dentiste, le soignant n'a pas à corriger les travaux qui ont été mal faits. Certains le font, parce qu'il y a vraiment, je tiens à le redire, je ne veux pas ici passer pour un anti-dentiste primaire, mais il y a des dentistes qui font excellemment bien leur travail, mais ce sont ceux aussi qui s'en sortent le plus mal, parce que ils font, dès lors que vous voulez bien faire votre travail en tant que dentiste, vous êtes en fait obligé de le faire au détriment de vos revenus.
Vous avez enquêté vraiment en profondeur sur le sujet, d'ailleurs vous montrez bien, effectivement, vous allez bien au-delà d'une vision très lutte des classes, le dentiste qui serait uniquement à la fut de l'appât du gain, parce que vous dites que de toute façon, même pour un dentiste qui n'est pas omnubilé par son chiffre d'affaires, de toute façon, vous dites, le modèle économique d'un cabinet dentaire n'est plus viable, sans tricher avec le système, sans tricher avec le patient. Il faudrait que le dentiste libéral facture 300 euros de l'heure, donc du coup, un détartrage devrait durer 10 minutes, par exemple, pour qu'il puisse s'en sortir. Donc en fait, il n'y a plus rien de logique dans ce système.
Non, c'est un système absurde, totalement absurde, effectivement. Le dentiste qui veut bien faire son travail, et j'en ai rencontré un pour ce livre, j'ai même consacré tout un chapitre, parce que c'est passionnant ce qu'il raconte. Ce qui est terrible, et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est le niveau de souffrance en fait, dans laquelle il se trouve, parce que voilà quelqu'un qui est extrêmement consciencieux, il veut bien faire son travail, et il souffre littéralement de ne pas pouvoir le faire bien, car dès l'instant où vous prenez le temps qu'il faut, par exemple, pour un détartrage, normalement un bon détartrage, c'est trois quarts d'heure. Il explique très bien pourquoi c'est important de faire un détartrage de qualité pour éviter que les dents souffrent et éviter que leur état se détériore. Et il ne peut pas le faire parce que s'il prenait le temps qu'il faut pour que chaque acte médical soit correctement administré, en fait, il perdrait de l'argent. Il n'aurait plus aucun revenu. Et en fait, je le redis encore une fois, je le redis à celles et ceux qui nous écoutent, si votre dentiste a une Jaguar garée en bas de son cabinet, fuyez, parce que c'est certainement pas un bon dentiste. Si en revanche, il a du mal à s'en sortir, s'il est lui-même en galère, c'est que très certainement, il prend à cœur les soins qui lui rapportent peu d'argent et qui sont si importants pour nous. Mais voilà, le système de soins dentaires français organise une dentisterie à deux vitesses dont les effets sont extrêmement violents pour des millions de personnes.
On peut aussi
c'est ce que j'essaye aussi
dentistes.
De mettre en avant, c'est la perte que ça représente pour tout le tissu social, en fait.
On peut aussi imaginer qu'il y ait des dentistes qui travaillent très bien et qui soient très riches et qui facturent ce travail très consciencieux aux patients, c'est-à-dire très largement au-dessus des tarifs conventionnés et remboursés.
Ou qui poussent à des soins qui ne sont pas indispensables.
Je voudrais, parce que votre livre est extrêmement complet, balaye un spectre très large sur l'esthétisme aussi dentaire, sur l'histoire. Je voudrais qu'on revienne dans l'Amérique de l'esclavage. Vous rappelez que les propriétaires d'esclaves arracher des dents à leurs esclaves. Pourquoi ?
Écoutez, moi, je suis tombé de ma chaise en découvrant ça. Non que on soit surpris de découvrir la sauvagerie des planteurs, des propriétaires d'esclaves du sud-américain. Néanmoins, je ne m'attendais pas à ces découvertes-là, à savoir qu'effectivement, les maîtres blancs s'acharnaient sur les dents de leurs esclaves, à des fins d'abord évidemment punitives, hein, mais aussi à des fins d'identification, puisque pour eux, forcément, ils avaient tous, ils se ressemblaient tous, leurs esclaves, aux yeux des esclavagistes. Par conséquent, il fallait les marquer, les individualiser, afin de pouvoir mieux les retrouver en cas d'évasion. Et donc, voilà, j'ai retrouvé des éléments d'archives qui précisent voilà, les avis de recherche qui ont été diffusés pour retrouver tel ou tel fugitif. On lançait les chiens et les slave patrols à leur trousse. Et à chaque fois, ils étaient identifiés à des dents manquantes qui leur avaient été arrachées. Alors j'évoque par ailleurs aussi le fait que très certainement, un certain nombre d'esclavagistes vivaient très mal le fait que les personnes qui le faisaient travailler au champ avaient des meilleures dents qu'eux, parce que à leur arrivée sur le sol américain, les Africains qui avaient survécu aux horreurs de la traversée arrivaient avec des dents en bien meilleur état que celles de leurs maîtres et bourreaux, et qui devaient sans doute en concevoir une certaine jalousie et une certaine rage, voilà, qu'il pouvait ensuite à loisir défouler sur ces personnes.
Olivier Siran, les dents sont aussi au cœur des violences conjugales à l'égard des femmes. Je vous propose d'écouter le témoignage de la comédienne Sandrine Bonnaire, un des plus beaux sourires du cinéma français.
C'était un ancien compagnon avec qui je vivais depuis 4 ans et qui m'a strangulée. Nous avons eu une dispute, il m'a attrapée contre un mur. Il m'a strangulée au point que je suis tombée évanouie. Et puis, je me suis réveillée, je ne sais pas combien de temps après, avec une triple fracture de la mâchoire. Donc, j'ai tous les os du visage qui sont cassés, avec la langue déchiquetée, 8 dents cassées. Et j'ai craché des morceaux de dents et je saignais terriblement. Il est allé me chercher une serviette, une grosse serviette éponge qui s'est remplie de sang très vite. Alors, il m'a dit que j'étais tombée. Je l'ai cru, donc je suis allée me regarder dans le miroir. Et là, j'ai vu mon visage, c'est-à-dire que j'avais le visage complètement déplacé. Je n'avais plus les dents de devant, les unes en face des autres. Heureusement, les 8 dents cassées, c'était derrière. Donc j'ai été opérée en urgence. Et les conséquences de tout ça, c'est que je suis restée paralysée pendant, on va dire, un mois et demi. Avec, bien sûr, toute la mâchoire attachée. Je n'avais plus d'ouverture de bouche. Toutes les semaines, je devais voir le chirurgien. Bien sûr, j'étais en tournage. Le film s'est arrêté pendant 2 mois et demi, le temps de récupérer un peu mes capacités. Et je tournais un film avec Jacques Dutronc. Et Jacques Dutronc, avec sa compagne, m'ont conseillé un maxillofacial formidable. Et donc, j'ai amené toutes mes radios. Je suis allée voir cet homme. Et ce médecin m'a dit, écoutez, ce n'est pas une chute. Vous avez reçu un coup. Et à partir de là, j'ai porté plainte.
Olivier Siran, vous aussi, vous avez rencontré des femmes victimes de violences, des violences qui étaient dirigées vers les dents, par hasard ou pas?
Oui, alors, je n'ai malheureusement pas trouvé de ressources indiquant, même approximativement, la proportion de femmes victimes de violences sexistes ou conjugales, dont les violences subies ont été portées sur les dents, précisément. Mais il semblerait tout de même que, en effet, ces violences, souvent, de manière disproportionnée, vise les dents. Et c'est sans doute pas pour rien. Les dents, c'est effectivement le sourire. Si le sourire effectivement, qu'on connaît tous, le sourire de Sandrine Bonnaire a été ainsi massacré, c'est sans doute pas un hasard. C'est-à-dire que son compagnon, qui a ensuite allégué au tribunal que c'était par jalousie qu'il avait ainsi cogné sur Sandrine Bonnaire, c'est qu'il s'agissait sans doute inconsciemment ou consciemment pour lui d'effacer ce sourire radieux. Et de cette manière-là aussi a marqué un droit de propriété, selon une logique sans doute un petit peu similaire à celle qui conduisait les esclavagistes à mutiler leurs malheureux esclaves. Et il y a dans le livre, en effet, femme nordie qui témoigne des coups qu'elle a reçus dans les dents. Elle s'est fait littéralement massacrer.
Qui perd toutes ses dents au fil des années de relations conjugales.
Exactement, de manière incroyable. Et il y a aussi ce truc après, quand vous allez voir le dentiste, de dire non, mais je suis tombée, je me suis fait mal toute seule. Et voilà, bon, elle a réussi à s'en sortir. Elle porte aujourd'hui des dents, des prothèses, et elle a retrouvé son sourire. Mais comme elle dit, elle n'arrive toujours pas à bien sourire sur les photos. Elle n'a pas appris le sourire Colgate.
On va en parler du sourire Colgate, justement. Il y a des présidents américains à qui ça arrive aussi d'avoir des fausses dents. Les voisines, les voisins, on attend vos histoires personnelles de dentition, vos complexes, vos satisfactions. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. C'est le compte WhatsApp.
More at the top, all invisible set and little ice cube blocks. If I could call it a drink, call it a smile on the rocks. If I could call out a price, let's say I call out a lot. I got like platinum and white clothes, traditional gold. I'm changing grills every day, like Jay changed clothes. I might be grilled out nicely in my white tee on South Beach. In my wife be VVS studded. You can tell when they cut it. You see, my grandmama hate it, but my little mama love it. Cause when I
open up your mouth, your grill gleaming. I stand up from the chief end.
I got a grill I call Penny Candy. You know what that mean? It look like nah, later some drops, jelly beans. I wouldn't leave it for nothing, only a crazy man would. So if you catch me in your city, somewhere out in your hood, just say
smile for me, daddy.
What you looking at?
Come on. Let me see your grill.
Let you see my what?
I got the diamonds in the ice out. Hands set, I might cause a cold front if I take a deep breath. My teeth gleaming like I'm chewing on aluminum foil. Smiling, showing off my diamonds, sipping on some potent oil. I put my money where my mouth is and bought a grill. 20 cash, 30 stacks, let them know I'm so for real. My motivation is them 30 pointers, BVS, the front of G in my mouth. Peace simply symbolize success. I got the wristwear and neckwear that's captivating. But it's my smile that got these on, look a spectating. My mouth be simply certified, a total package. Open up my mouth and you see more cash than a salad. My teeth are mind blowing, giving everybody chills. Call me George Foreman, cause I'm selling everybody grills.
C'est le rappeur afro-américain Nelly qui chante Grills, qui a embelli ses dents avec des grills, justement, des diamants. Il a des diamants en bas, il a une dent en or ou en argent, je ne sais plus, en haut. Olivier Siran, vous écrivez sur les dents ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale. C'est une contre-culture populaire en réponse à la dictature américaine hors de prix des dents parfaites. D'où ça vient cette mode des rappeurs de se faire des dents très voyantes, métalliques, incrustées de pierre?
Je crois qu'il y a deux aspects à ça. Il y a d'un côté, effectivement, le fait de revendiquer ses origines sociales, le fait d'avoir eu une vie difficile, d'une certaine façon, des dents abîmées concrétisent la street cred, pour aller vite, ou en tout cas le fait d'avoir d'être d'origine populaire, etc. Mais c'est l'autre aspect un peu paradoxal de ça, c'est que c'est un luxe qu'on ne peut se permettre que si on a déjà acquis une certaine position dans la société.
C'est pas donné, hein.
Non, et si vous voulez, c'est possible d'assumer des dents abîmées dans le monde du showbiz, mais ça l'est beaucoup moins dans le monde du travail et autour de nous.
Ouais. Je vous propose d'écouter le message d'un auditeur qui a posté son message vocal sur notre WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
Bonjour, c'est Alfred depuis Libreville. J'ai quand même une belle denture vu que j'ai une magnifique brèche là devant. Quand j'étais petit, nos parents ont dû nous envoyer vivre au village parce qu'ils avaient des problèmes dans le couple et ils ne voulaient pas nous faire vivre ça. Et vivre longtemps au village, ça n'a pas aidé parce qu'au village, l'hygiène dentaire, c'est pas trop ça. La première fois que j'ai eu un dentiste, j'avais 21 ans. Du coup, j'ai les dents jaunâtres. Pas totalement jaunes et tout, mais c'est un petit complexe parce que j'aimerais bien les blanchir et tout. Faute de budget, parce qu'ici, au Gabon, les soins dentaires sont assez chers. Je sais qu'un jour, dès que je pourrais m'offrir un blanchissement total, je ne vais pas hésiter, quoi.
Voilà, bien sûr, vous nous appelez pour nous parler de vos complexes ou de vos satisfactions dentaires au 33 7 64 45 51 41. On donne la parole à un auditeur qui nous appelle de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Abdoul.
Bonjour Emmanuel.
Abdoul, vous appelez pour parler des dents de votre femme, ou plutôt de son sourire.
Exactement. Ah non, attention, ce n'est pas son sourire, mais c'est son dent, c'est sa dentition. Voilà, c'est son...
Sa dentition.
Sa dentition. Oui. Oh, oui. Voilà, justement, c'est ça. Ce n'est pas son sourire qui m'intéressait, c'est comme, évidemment, quand elle sourit, il est évident qu'on peut voir ses dents. Et voilà, c'est ça.
Et qu'est-ce que ça vous inspire, alors?
La première fois que j'ai rencontré la fille, elle s'appelle Mariam Diarra. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était, elle souriait. Elle nous a salués. Quand elle nous a salués, voilà, du coup, j'ai vu ses dents. Et ça m'a attiré. Et parce que, avant cela, moi-même, j'étais vraiment impressionné par les dents. J'aimais avoir toujours dents propres, très, très claires. Mais malheureusement, je n'avais pas des moyens suffisamment pour prendre bien soin de mes dents. Et du coup, dès que j'ai vu ses dents à elle, Elle m'a séduit,
c'est ça.
Et voilà, je me suis...
Donc vous voulez dire que votre femme, elle a des dents très blanches, contrairement à vous, c'est ça? Très, très bien alignées et très blanches.
Exactement, c'est ça. J'aimerais avoir la qualité de ses dents, la façon dont elle prenait soin de ses dents, mais malheureusement, oui. Bon, vous voyez...
Alors, elle a eu un petit problème dentaire, hein, je crois, votre femme, parce que vous l'avez envoyée en Tunisie pour soigner une dent.
Non, c'est pas ça. Non, pardon, pas du tout. Elle n'a pas eu un problème, pas du tout. Juste après avoir rencontré, bon, finalement, je ne sais pas comment, par quel moyen, nous sommes mis ensemble et après, bof. On s'est mariés. Après le mariage, j'ai su que ses dents, ça ne venait pas du ciel. Ça n'était pas tombé du ciel. Parce que quand je l'ai mariée, j'ai trouvé qu'elle prenait énormément de soins. Elle avait tous des produits et voilà. Elle peut passer 2 heures, 3 heures de temps pendant la nuit en train de faire du maquillage. Vous savez, la seule chose qui m'a surpris, c'est que les autres filles font du maquillage du visage, du corps, mais elle fait du maquillage du dent.
Ah, oui. D'accord. Je suis pas sûre de bien comprendre, Abdoul. Qu'est-ce que ça veut dire, du maquillage des dents, exactement?
Le maquillage des dents, ce qui veut dire, elle broche les dents, elle a des produits, elle a des choses. Je lui ai posé la question.
Selon vous, elle mettrait des produits pour blanchir ses dents. Mais aujourd'hui, elle a bien une dent en argent, ou j'ai pas compris votre histoire?
En argent, oui, effectivement, parce que elle m'avait dit que voilà, elle souhaitait avoir changé une de ses dents par argent. Et je l'ai dit, et
mais
comment
pour
cela
des raisons, pouvait se... pour des raisons esthétiques ou pour des raisons de...
Non, pas pour des raisons médicales, madame.
D'accord, c'était pas pour des pour raisons médicales.
Raisons
d'accord, et pour des raisons voilà, esthétiques. Elle rêvait d'avoir une dent en argent et d'accord.
Oui, excusez-moi madame, une seconde, je l'ai raccompagnée, on a économisé de l'argent. Et voilà, je l'ai raccompagnée en Tunisie.
Pour qu'elle ait une dent en argent. Pardonnez-moi,
Abdoul.
Oui, alors justement, vous la trouvez comment maintenant avec sa dent en argent, votre épouse?
Waouh, elle devient encore beaucoup, 10 000 fois plus belle encore. Et d'ailleurs, ce que je ne comprenais pas toujours, je disais à l'une de vos journalistes, et quand il y a eu une petite querelle entre nous, et voilà, si elle sait que je suis fâchée, 2 ou 3, 4 minutes, ou bien au bout d'une heure de temps, elle vient, elle s'assoit devant moi, elle fait semblant, elle prend une miroir, en train de faire semblant comme si elle est en train de faire quelque chose dans ses dents. Une fois que j'ai vu son dent, et voilà, je vais me mettre à sourire.
Ça y est,
et voilà, la crêpe est partie.
Vous fondez devant le sourire de votre femme. Merci beaucoup, Abdoul. Donc, comme quoi, hein, les normes esthétiques, l'esthétisme d'un beau sourire, ça peut beaucoup varier. Et on peut avoir un très beau sourire avec une dent en argent que l'on a fait poser volontairement, si j'ai bien compris, Olivier Siran.
Oui, absolument, mais c'est toute là aussi la particularité des dents en tant qu'organe, c'est que c'est à la fois un objet de soin, parce qu'on a besoin de nos dents pour des fonctions biologiques absolument essentielles, mais c'est en même temps aussi un support esthétique, hein, et donc qui a une valeur symbolique, ouais, culturelle, extrêmement forte. Et c'est ça qui fait que voilà, les dents sont un bien précieux.
Alors justement, je vous propose la rediffusion d'un reportage de RFI par notre correspondante en Afrique du Sud, Claire Bargelès, parce que dans les rues de Cape Flats, les townships de la ville du Cap, eh bien il est courant de croiser des habitants, alors non pas qui ont une dent en or ou en argent, mais un trou à la place des dents de devant. Le sourire édenté des Cape Flats, c'est pas le reflet d'un manque de soins dentaires, hein, mais c'est une mode, une tradition à cette région, dans la communauté noire et métisse, et Claire Bargelès a recueilli des témoignages en 2019, comme celui de Nidat, qui habite dans un township de la ville du Cap et qui s'est fait retirer ses incisives du haut, des dents donc parfaitement saines, alors qu'elle était au lycée et elle ne regrette rien.
J'ai fait enlever mes dents de devant, 6 d'entre elles, et depuis je n'ai pas remis de fausses dents. En fait, j'aime bien. Je l'ai fait parce que c'est assez populaire ici. Vous voyez, on se sent plus beau, plus attractif quand on est jeune. On le fait aussi parce que tous nos amis le font et on ne veut pas se sentir rejeté.
Il est ensuite courant de remplacer des dents manquantes par des prothèses en or ou en argent, ou bien par un dentier amovible pour pouvoir choisir quand exhiber son sourire des Cape Flats. Jasmine a préféré ce second choix.
Ok, regardez. Toutes ces dents-là, je les ai fait enlever et c'est un dentier à la place. Je sais que mes dents étaient en bonne santé, mais vous savez, dans notre quartier ici, c'est à la mode. On trouve ça plus joli.
Et ce n'est pas une question de génération. Cédric, 66 ans, a lui aussi, à l'époque, succombé à ce phénomène.
Dans les années 60, quand on voyait que quelqu'un avait enlevé ses dents de devant, on voulait faire tous la même chose. Les hommes, on le faisait pour attirer les filles, et les filles le faisaient pour attirer les garçons.
Chacun justifie aujourd'hui à sa manière cette étrange mutilation dentaire. Pour certains, ce sont les gangs qui auraient popularisé cette mode. D'autres évoquent la rumeur d'une explication sexuelle. Surnommée le passion gap, le gouffre de la passion permettrait de meilleurs baisers et plus y affinités. Jackie Friedling, enseignante à l'Université du Cap, a réalisé une enquête scientifique pour comprendre d'où vient cette pratique.
Historiquement, des formes de retrait dentaire étaient aussi pratiquées dans d'autres endroits d'Afrique afin d'identifier les membres de son ethnie. Ici, au Cap, on pense que la pratique est arrivée par les esclaves déportés au sein de la colonie. Aujourd'hui, c'est toujours une forme d'identification et chez les plus jeunes, c'est un peu un rite de passage pour être inclus dans la communauté.
Les plus anciens ont certes quelques regrets lorsque leurs autres dents commencent à bouger, voire à tomber, mais ce sourire unique reste malgré tout très en vogue dans les Cape Flats. Claire Bargelès, de retour du Cap, RFI.
Il nous reste très peu de temps, on arrive bientôt au terme de cette émission, Olivier Siran, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu beaucoup de traditions autour des dents dans les différentes cultures, la culture maya, au Japon aussi.
Oui, mais c'est toujours intéressant de se rendre compte qu'il y a bien d'autres normes esthétiques que celles des dents blanches, hein, mais notamment effectivement au Japon, il y avait la pratique ancestrale du ohaguro qui consistait pour les jeunes femmes de bonne famille à se noircir les dents. Donc c'est voilà, on est carrément à l'opposé du culte des dents blanches. Ouais. Oui, et qui n'est pas que américaine quand même. Hein, ouais.
L'alignement des dents, l'orthodontie.
Oui, disons que c'est beaucoup
plus américain. Le blanchiment.
Oui, et puis le sourire hollywoodien. Oui. Les facettes, par exemple, sont nées à Hollywood. Un dentiste les a inventés.
Donc,
parce qu'il a découvert
facettes, que les... C'est un petit revêtement qui est collé sur les dents.
Exactement. Et qui au début donc permettait aux acteurs hollywoodiens de montrer un râtelier parfaitement éclatant de blancheur. Et donc de renforcer le côté glamour. Donc effectivement, l'imposition de la norme des dents blanches est beaucoup liée à l'essor de Hollywood et puis
Joe
de la
Biden
télévision
a
et de la publicité.
Parfaitement oui. Fausse. Toute la question est de savoir, c'est quand on a des dents ultra blanches à l'âge qu'il a, 78 ans de mémoire, est-ce que ça ne fait pas plus vieux que d'avoir des dents plausibles?
C'est intéressant parce qu'effectivement, les dents de... Joe Biden brille comme du carrelage de salle de bain, mais c'était le cas aussi pour Donald Trump. Et dans le visage de Donald Trump, c'était le contraste était particulièrement frappant, si vous voulez, entre le support et le produit, si je puis dire. Cet excès de dents blanches, d'ailleurs, ça pose un problème aussi, parce qu'aux États-Unis, vous avez 15% de la population.
Allez-y.
Qui recourt à des services de blanchiment dentaire. Et du coup, il y a une uniformisation dans les hautes sphères, à travers les dents blanches, qui cause un souci dans la mesure où, par ailleurs, il faut aussi se distinguer individuellement par rapport au groupe auquel on appartient. Et donc, on voit émerger des pratiques un peu de... Par exemple, maintenant, quelque chose qui était considéré avant comme pas joli, à sort le diastème, hein, les dents du bonheur, l'espacement des dents de devant, dans certains milieux, aujourd'hui, est considéré comme un plus, comme une petite touche personnelle qui permet de revendiquer une originalité, une petite excentricité.
Maya, qui est une Française qui vit à Brazzaville, nous dit qu'elle a été arnaquée par un dentiste. Elle s'est fait poser des facettes et ces facettes se sont cassées. Elle a payé 6 000 euros. Aujourd'hui, elle ne sait pas à qui se fier. Voilà. Eh bien, écoutez, Olivier Siran, il faut vous lire sur les dents, ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale. On va se quitter avec une figure de l'afrobeat à la nigériane, Tiwa Savage, chez 7 milliards de voisins. Merci à vous, Olivier Siran.
Baby, you're my African queen, African lady, African sugar. Et pour toi, je commettrai le pire, mais ton cœur est blindé, il me connaît déjà. Forcément, il a bloqué tout sentiment. Oh, il a bloqué tout sentiment. Baby sugar, pourquoi me fuir? C'est pas moi le pire. T'es arrivé de Lagos à 6h30 et j'étais là. Je ne compte pas. Selfie sur les plus grands départs, oui, on a tout flambé.
Milliards de voisins, c'est fini.
Autour de la question.